Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils? Où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière? Ensuite, de ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique? Quel est leur sujet de recherche actuel? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences? Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous.
Salut JB.
Salut Julien.
Merci à toi pour ce troisième épisode avec toi.
Ouais, déjà.
ouais, ça va vite et je suis content. Je suis content. C'était une idée que tu avais eue de parler de l'EBP, des revues scientifiques, des publications. Donc voilà, je suis content avec tes multiples casquettes qu'on puisse te poser des questions là-dessus.
Eh bien, écoute, avec plaisir.
Ouais. La première question que je voulais te poser, c'était comment on prend l'info? On sait qu'il y a les réseaux sociaux, on sait qu'il y a forcément des revues scientifiques, mais comment on prend l'info?
Alors, à la limite, ce qu'on peut faire avant de dire ça, c'est d'essayer d'estimer la taille de l'info, parce que ça va influencer la réponse. Si tu fais une estimation, un ordre de grandeur, dans le champ des sciences du sport et de la rééducation, de la médecine du sport, oui. Il y a à peu près une grosse centaine de journaux scientifiques. Ces journaux scientifiques publient à peu près chacun, en moyenne, un article par jour. Donc, ça veut dire que, en moyenne, par jour, il y a une centaine d'articles scientifiques qui sont publiés dans notre domaine. Donc ça, c'est important parce que c'est le point de base. Tu comprends, si c'est 1 ou 1000, oui, on n'a pas la même discussion. Donc en fait, ça veut dire que pour trouver l'info, il va falloir ouvrir un tamis pour filtrer toute cette information et trouver tes pépites, tes choses qui t'intéressent. Et ça, c'est très individuel parce que les choses qui t'intéressent à toi et qui te servent à toi seront différentes des miennes, etc. Donc la première chose, en fait, tu as deux solutions. La solution exhaustive mais parfaite, c'est de suivre chaque journal. Tous les journaux ont leur site internet hein, maintenant. Avant, il fallait attendre des livres publiés, envoyés par la poste, mais maintenant, il y a les sites internet. Donc, se taper entre guillemets tous les numéros de tous les journaux et de tous les articles. Ça, c'est parfait. Ça consiste à apprendre le dictionnaire par cœur pour être bon en vocabulaire et en orthographe. Et tu as bien compris, c'est pas possible. A fortiori, si tu es un praticien et que t'as d'autres choses à faire. L'autre solution, c'est donc soit de sélectionner les journaux qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire ceux qui ont publié dans le passé les choses qui sont clés pour nous, et de se cantonner à 3-4 journaux. Je pense pas que ce soit une bonne solution, parce que ça veut dire que tu évites tout le reste. Soit de passer par les réseaux sociaux et de passer par des mots-clés ou par des moteurs de recherche. Et à l'heure actuelle, le moteur de recherche PubMed, qui est géré par la Bibliothèque nationale de médecine américaine, te permet d'avoir des alertes email sur des mots-clés. Donc en fait, il faut quand même prendre un peu de temps pour trouver ces mots-clés, générer ces alertes. C'est tout est gratuit et accessible. Et donc, tu peux recevoir chaque semaine ton alerte avec ton mot-clé, LCA ou ton mot-clé fascite plantaire. Ou... Donc voilà, il faut trouver des moyens en ligne pour avoir des alertes. L'autre moyen, c'est de suivre des gens sur les réseaux sociaux qui vont, sur certaines thématiques, véhiculer de l'information. Et ça, c'est là, on passe par le filtre de leur subjectivité.
Ok, top. Et comment, quand on a vu cet article, comment est-ce qu'on filtre, tu vois, en fonction de la revue? Est-ce que, quelle que soit la revue, qui sort un article qui nous intéresse, on va le lire? Est-ce qu'on va éviter certaines revues ou pas? Comment on fait?
Eh bien, en fait, là, c'est très compliqué parce que tu ne sais jamais à l'avance si le contenu d'un article va être intéressant pour toi, de qualité pour toi, etc., etc. Donc, tu peux procéder en analysant uniquement les titres, mais le problème, c'est que les titres sont parfois très trompeurs. Il y a parfois un écart énorme entre le titre et le contenu réel de l'article. Tu t'aperçois que les gens abordent pas du tout ou très mal ce qui est présenté dans le titre. Par exemple, tu as beaucoup de titres qui disent « effet de quelque chose sur quelque chose ». Et en fait, l'étude, c'est pas une étude interventionnelle. C'est une étude de corrélation. Donc, on teste un lien ou une association, pas du tout un effet. Et c'est assez classique, mais la deuxième approche, c'est de regarder un peu le résumé. Donc là, il va falloir quand même que tu parcours le résumé. Et là, ça va te dire un peu plus ce qu'il y a dans l'article. Et puis, la troisième approche, ben, entre guillemets, malheureusement, ça va être de lire l'article. Donc, de se procurer et de lire l'article. Je dirais que le résumé, c'est globalement une bonne information. Ça peut être aussi très trompeur. Il y a des choses qu'on ne lit pas dans les résumés et qui devraient être lues. Et donc, t'as pas le choix. Donc, en fait, ce qu'il faut entraîner, c'est la capacité à anticiper le contenu d'un article à partir de seulement le résumé. Mais de toute façon, il va falloir y passer quelques minutes. Mais là, j'ai envie de dire, si tu décides de mettre en place de la veille scientifique, t'as pas le choix. Donc, voilà.
Ok. Et les revues prédatrices, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et est-ce qu'on lit des articles de ces revues-là ou pas?
Alors, c'est très flou comme concept, les revues prédatrices. Généralement, on appelle une revue prédatrice une revue qui n'est pas indexée. C'est-à-dire, en fait, c'est important, hein, on appelle journal scientifique ou revue scientifique, c'est un peu comme les produits dopants, une revue qui est sur une liste, qui a un index scientifique et donc tout ce qui est hors de cette liste n'est pas considéré comme revue scientifique. Voilà, tu prends, je sais pas, Sport et Vie, c'est un très bon magazine, mais c'est pas une revue scientifique. Et parmi ces revues qui ne sont pas indexées, il y a des revues qui ont des pratiques prédatrices, c'est-à-dire qu'elles sollicitent les articles. Parfois, elles proposent de financer la rédaction d'articles. Elles proposent des facilitations de publication. Elles sont très agressives dans le marketing, notamment par email. Elles prennent souvent des titres qui sont très proches de revues très connues, etc., etc. Et elles sont pas indexées. Donc, tout le problème des revues qui sont pas indexées, c'est que on ne peut pas considérer que c'est un travail scientifique parce que ça n'a pas été revu par les pairs. Il n'y a pas eu les grilles dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, on peut, entre guillemets, ignorer ce qu'il y a dedans. Le problème, c'est que parfois, certaines revues ne sont pas indexées, mais ne sont pas prédatrices, c'est-à-dire qu'elles se comportent comme n'importe quel type de revue académique, et elles publient des contenus qui sont très intéressants. Et donc là, en fait, il faut aiguiser son œil un peu critique pour éviter deux écueils. L'écueil de se dire « je ne lis que ce qui est dans les revues scientifiques parce que tout le reste, c'est de la crotte », et l'écueil qui consiste à dire « même ce qui est publié dans une revue prédatrice, c'est de la haute qualité. » Et on revient à la réponse précédente. Tant que tu n'as pas lu le contenu avec ta grille de lecture et tes détecteurs de drapeaux rouges, ben, tu ne peux pas savoir. Et donc, il y a des erreurs un peu dans les deux sens. Il y a des contenus publiés dans des revues scientifiques qui sont pauvres, voire erronés, méthodologiquement parlant. Et il y a des choses dans des revues non indexées qui sont de très bonne qualité.
Ok, top. Sur la partie.
Mais on peut partir du principe que. On peut partir du principe. Ouais, excuse-moi. Vas-y. On peut partir du principe que, comme le listing de revues officielles évolue, ce listing évolue et donc il est régulé. Et donc ça veut dire que oui, on peut quand même prendre comme gage de qualité le fait qu'un article est dans une publication indexée. Globalement, il y a toujours ce fameux 5 à 10% d'erreur.
Ok, top. Et sur la partie. Diffusion. Quelqu'un, un prépa physique, un physio, un sport scientiste, qui veut publier, dans l'ordre, qu'est-ce qu'il doit faire pour publier dans une revue scientifique?
Alors, on va couper l'étape de l'intérêt et de l'originalité de l'étude. D'accord? C'est-à-dire qu'on a déjà passé l'étape de j'ai abordé une question qui est originale, qui mérite d'être publiée. On va dire que tu as un contenu, un article
qui est suffisant,
qui, entre guillemets, mérite d'être publié. Si tu en es là, tu as une stratégie qui consiste à déjà cibler la revue dans laquelle tu veux publier. Et donc là, tu as deux stratégies. Soit c'est une stratégie de publier dans une revue la plus prestigieuse possible, parce que tu as un intérêt. Soit c'est une revue que tu sélectionnes pour son lectorat, c'est-à-dire pour sa thématique et pour les gens qui vont la lire. D'accord? Une fois que tu as identifié là ou les revues qui peuvent prendre ton article, bah, il suffit en fait de rédiger ton article dans le standard qui est demandé par la revue et de soumettre ton article. Parfois, c'est une démarche qui est payante. Il y a certaines revues qui font payer la soumission. Et parfois, très souvent, c'est une démarche qui est gratuite. Et là, tu soumets ton article. Ça prend en général une petite heure à formater. Tu fais souvent une lettre qui accompagne ton article et qui dit, ben voilà, on est cette équipe de recherche, on a cherché ça et on a trouvé ça et on le propose à votre revue. Et après, ton article, il part dans un tuyau qui est le tuyau du process éditorial.
Ok, et est-ce que tu peux justement envoyer ton article à plusieurs revues, ou est-ce que ça se fait pas et tu cibles vraiment qu'une revue, et après si ça le fait pas, ben tu vises d'autres?
Alors, la procédure éthique et la procédure réglementaire, et elle est très surveillée actuelle, c'est que tu ne peux pas envoyer ton travail à plusieurs revues, okay. Parce que sinon, t'imagines, si chaque chercheur envoyait chacun de ses articles à chaque revue, ce serait ingérable. Donc, en fait, il faut que tu attendes que le cycle soit complètement terminé avec un journal pour l'attaquer avec un autre. Il y a toujours des fraudes, comme dans tout système, et on sait qu'il y a des fraudes où il y a des gens qui envoient. On te fait signer quand même une lettre dans laquelle tu dis « ce travail n'a pas été soumis en ce moment à un autre journal ». Et donc, ben, ça revient là au point précédent, ça veut dire qu'il faut faire très attention dans ton choix, parce que si tu te trompes de cible, soit pour la thématique, soit parce que tu vises une revue exceptionnelle alors que ta recherche ne l'est pas, eh ben, tu risques de perdre du temps dans un process qui va in fine être un process de rejet de l'article, alors que et tu es obligé d'attendre ça. Donc en fait, voilà, on peut pas ouvrir les vannes, envoyer à tout le monde et demander qui la veut. Parfois, il se passe qu'on contacte les éditeurs en chef, c'est-à-dire les gens qui gèrent les revues, en disant on veut publier ça, est-ce que ça peut vous intéresser? Et très rapidement, ils se prononcent en disant bah non, c'est pas dans notre ligne éditoriale actuelle, ou oui, soumettez-le, ça permet de gagner un peu de temps. C'est pour ça que le process est très long.
Oui, et donc c'est ça, faut bien viser par rapport à ce que tu penses que ton article apporte de nouveau dans le monde de la science. Et si tu vises trop, bah, tu vas être rejeté, tu perds du temps sur la publi. Et si tu vises bien, bah, tu as le maximum de chances d'être accepté et de publier rapidement. Ok, top. Et qu'est-ce que ça apporte justement de publier en termes de reconnaissance des pairs? Est-ce que tu as des bourses? Est-ce que ça t'aide pour un doctorat, pour un master?
Oui, alors en fait, pour moi, la première chose que ça apporte de publier, c'est qu'en fait, ça concrétise le jeu, la démarche scientifique qui est de partager ta connaissance, de partager tes résultats. C'est-à-dire que voilà, le but d'une publication, c'est de dire aux gens, au lectorat, aux praticiens, aux chercheurs, ben voilà ce qu'on a trouvé. Pour moi, c'est ça le but numéro un. Alors, c'est pas un but parfois pour certaines personnes, parce que le but pour certaines personnes parfois, c'est d'augmenter le volume de son CV pour pouvoir accéder à des emplois, pour pouvoir accéder à des thèses. On sait par exemple clairement qu'un étudiant de master qui publie ses résultats de travail de master dans une revue indexée augmente ses chances d'être compétitif sur un programme de doctorat.
Okay.
Donc, parfois, ce que ça apporte, c'est que ça apporte des choses d'un point de vue professionnel, mais ce que ça doit apporter d'abord, c'est d'un point de vue de la connaissance globale, ça doit apporter des résultats. Mmh. C'est le but de la publication. Parfois, ça peut même apporter des financements. C'est-à-dire que quand on a des évaluations sur des demandes de financement, on nous demande quelles sont vos 5 publications majeures, quel est l'impact de ces publications pour se prononcer sur votre impact. Ça peut apporter aussi un recrutement. Il y a certains postes où ça va se jouer au nombre de publications, ce qui est parfois un peu un critère discutable, ou à la qualité, à l'impact des publications. Donc, ça peut apporter plein de choses d'un point de vue, on va dire, égoïste, personnel à l'individu, mais en premier lieu, ça doit apporter à la communauté, ça doit apporter des résultats.
Ok, top. Et on revient sur
des idées.
Ouais. En revenant sur le processus de publication, combien de temps il se passe entre le moment où tu envoies ton article à la revue, avec la lettre, comme tu disais, et le moment où tu as une réponse, entre guillemets, définitive?
Ouais. Alors écoute, dans mon expérience, j'ai une expérience maintenant de 20 ans comme auteur publiant et de 4-5 ans maintenant comme éditeur, ça peut aller, accroche-toi, de une semaine deux ans.
Wow.
C'est plus une fourchette, hein, c'est une fourchette. Ouais. Mais globalement, la moyenne, la bonne moyenne, on va dire, c'est la bonne moyenne, c'est autour de 6 mois.
Okay.
C'est-à-dire, ça prend environ 2 mois à ce que ton article soit expertisé, ça prend 2 mois à ce que tu révises ton article éventuellement, et ça prend à nouveau 2 mois pour se prononcer. Quand ça dure très peu de temps, c'est plutôt louche en fait, parce que ça veut dire que soit l'article était quasiment parfait, il y a rien à dire, mais bon. C'est pas souvent le cas. Soit, et c'est le problème des revues qui sont des pseudo-prédatrices, c'est des revues qui poussent pour accélérer le temps de publication. Parce que ces revues-là ont compris que les chercheurs ont besoin parfois d'avoir leur article dehors très vite. Et donc, elles mettent la pression sur les reviewers.
Okay.
Elles abrègent parfois le process de reviewing. Elles recrutent des gens dont c'est pas le truc et qui vont dire, pour pas se mouiller, oh, c'est très bien, bravo, publiez-moi ça. Et donc, les temps de publication sont parfois très raccourcis, plutôt pour un aspect marketing au détriment de la recherche. Donc, on peut se dire que un process moyen, c'est autour de 6 mois.
Okay.
Sachant que, on est bien d'accord, hein, c'est le process moyen quand l'article est soumis à la revue dans laquelle il va être publié. Nous, on a des papiers qui ont mis 2 ans à être publiés parce qu'on a rebondi sur 3 ou 4 revues mal ciblées avant que ça parte en expertise.
Ok. Et en tant que lecteur d'articles, tu n'as jamais accès justement au temps entre le moment où ils ont demandé la publication et le temps où ils ont eu accès à cette publication?
Rarement. Alors certaines revues le font, ils te disent quand est-ce que l'article a été soumis, quand est-ce qu'il a été accepté. Bon, tu vois qu'il y a eu une semaine ou 6 mois, là ça peut te dire bon, une semaine c'est quand même bizarre. Mais cette information pour moi elle est pas très utile parce que tu as une durée mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu sais pas si cette durée elle est due à une amélioration scientifique. Donc c'est pas très intéressant. Ce que je trouverais très intéressant et ça commence à se faire, c'est que les lecteurs aient accès avec un article aux commentaires des experts. Et là, ils pourraient se rendre compte s'il y a eu une grosse discussion scientifique, comment les auteurs ont répondu. Tu vois ce que je veux dire? Ils pourraient voir, ça a été le cas, moi, dans un exemple que j'ai, que ben, sur 3 experts, il y en a 2 qui ont dit « c'est super, merci, au revoir, rien à dire », alors qu'il y avait plein de choses à dire. Et là, ça viendrait un peu mettre de la nuance dans le travail fini.
Ouais, ça met de la nuance et ça met du débat. Et c'est vrai que ce serait énorme d'avoir des articles scientifiques avec, entre guillemets, les corrections avec les noms des experts. Et comme ça, toi, quand tu le lis, tu peux dire, ah ben, cet expert, il pense ça de ça, ben, lui, il pense ça, et ça permet de, tu vois.
Ouais. Pour rien te cacher, je pense que c'est une voie d'amélioration, globalement, du travail. Ça peut aussi être à double tranchant, parce que ça peut aussi mettre du débat là où il n'y en a pas besoin. Ça peut révéler aussi un peu une forme d'orientation de la façon de penser de certaines personnes sur certaines hypothèses. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Et puis ça pourrait forcer les gens un peu à changer le discours quand on lève l'anonymat. C'est voilà, l'anonymat de l'expertise, c'est quand même une base de l'expertise scientifique et c'est pas résolu encore. Est-ce que c'est mieux de le faire ou de pas le faire?
C'est intéressant. Et est-ce que tu as des tips pour publier dans les meilleures conditions? Alors on a déjà dit qu'il fallait entre guillemets cibler la bonne revue par rapport à notre article. Est-ce qu'il y a d'autres tips qui te viennent en tête?
Ouais, alors ben bon, le premier, c'est d'avoir un travail original et impactant et intéressant. Il faut quand même revenir là-dessus. Tout n'est pas publiable, tout n'est pas intéressant, tout n'est pas important. Donc voilà, il faut être lucide. Et il y a des fois des choses qui sont intéressantes, mais qui sont pas publiables. Donc admettons qu'on a un travail qui est intéressant, original et publiable. Le premier conseil, c'est clair. C'est qu'il faut être lucide sur quel est le meilleur endroit pour avoir nos chances d'être publiés. Il faut pas, entre guillemets, taper ni trop haut ni trop bas. Donc ça, c'est la première des choses. Malheureusement, parfois, les gens ont de la lucidité, mais ils jouent le jeu d'un impact factor élevé, d'une revue de prestige pour leur CV, parce que c'est toujours mieux de publier dans un haut impact. Une fois que tu as bien ciblé ta revue, ça peut aussi venir d'une lecture. Tu as vu que ça faisait plusieurs articles dans cette revue sur ce thème-là, donc tu te dis, OK. Une fois que tu as bien ciblé ta revue, il y a un conseil de base, c'est que en fait, il faut que l'anglais écrit soit de très bonne qualité. Et ça, je l'ai observé. En fait, ça, quand l'anglais est de mauvaise qualité, alors quand il est trop mauvais, l'article est rejeté pour cette raison-là, mais quand il est passable, l'article va être expertisé, mais déjà, le fait de lire quelque chose de mal écrit, ça va déjà mettre un biais, on n'a pas le choix, un biais dans la tête de l'expert, ça va influencer les choses. Donc, si tu veux, voilà, c'est comme un orateur qui a des choses intéressantes à dire, s'il le dit avec une qualité orale qui est faible, ben, ça gêne le message. Donc, parfois, il faut payer, il faut trouver des moyens d'avoir un anglais parfait. Petite astuce, vous améliorez votre anglais écrit en augmentant le volume d'anglais lu. C'est-à-dire qu'en lisant des articles bien écrits, vous allez petit à petit vous influencer de ça. Et puis la dernière chose, je pense, c'est qu'en fait, le conseil, c'est d'essayer d'être le plus simple possible. C'est-à-dire d'essayer de cibler les questions de recherche, d'entre guillemets, ne pas en mettre trop, et de faire quelque chose de simple, qui se lit, pas qui se lit vite, mais qui se lit facilement. Donc d'être clair, simple et bien écrit. Ça, c'est pour moi, c'est les conseils majeurs.
Top, merci. La différence entre un article accepté et rejeté, tu vois, qu'est-ce qui fait que ça bascule d'un côté ou de l'autre?
Alors, je te la fais très courte. Le process, c'est donc dans le journal dans lequel je suis éditeur, Journal of Sports Sciences, le journal reçoit 5 articles par jour. Voilà, en moyenne, 2000 par an. D'accord? Donc ça, c'est le volume. Sur ces 5 articles par jour, la première personne qui vise les articles, c'est l'éditeur en chef. Donc ça, c'est un job à plein temps. C'est le chef de la revue. Et c'est lui qui, ou elle, qui désigne la ligne éditoriale. Donc l'éditeur en chef, il a le premier bouton. Je pense qu'il met entre 10 et 30 secondes, voire une minute, à faire sa première décision. En disant sur les 5 articles, tu as compris, le journal peut en publier qu'un. C'est très facile à mathématiser, hein. Donc, il va falloir en dégager entre guillemets 4. Donc, cette première décision, elle va très vite. C'est le type d'article, le contenu, et c'est le choix de l'éditeur. Mais encore une fois, si on s'appelle éditeur, c'est parce qu'on édite. Donc, on fait un choix. Ensuite, quand il décide de prendre un article en expertise, il l'envoie à ses éditeurs. Donc là, c'est une armée d'experts dont je fais partie pour Journal of Sports Sciences. Et les éditeurs, donc moi, en tant qu'éditeur, j'en reçois à peu près 4 ou 5 par semaine. On a un deuxième bouton. Et là, en fait, on est par spécialité. Donc, on reçoit des choses qui sont dans notre champ de compétences. On connaît la littérature. On sait si cet article vaut la peine ou pas d'être expertisé. Donc là, nous, on dit oui, non. Et ça se fait, c'est très rapide, hein, c'est un système en ligne. Voilà, on dit oui, on envoie, on dit non, l'auteur reçoit une lettre. Et si on dit oui, si on dit non, on doit quand même essayer d'expliquer pourquoi. La plupart du temps, c'est que on reçoit trop d'articles, on peut pas tout publier et il manque un peu de choses à votre article. Et si on dit oui, on doit trouver des experts, au moins 2, pour qu'il y ait un aspect contradictoire à l'évaluation. Ces experts doivent accepter d'évaluer l'article et ils doivent rendre leurs commentaires dans les 30 jours. Et nous, on doit suivre ça. Et je te dis pas combien de mails, de rappels de « vous êtes en retard » j'envoie par semaine. Mais voilà, on essaye de faire en sorte que le travail soit fait. C'est un travail qui est gratuit, donc on comprend bien que c'est une charge académique supplémentaire. Après, on espère que si les gens s'engagent à lire l'article, ils vont le faire. Et puis nous, à la fin, quand on a tous les commentaires, on fait la balance. Donc, si on a des commentaires qui sont plus négatifs que positifs, des choses qui sont ingérables, on refuse l'article. Ça arrive. Sinon, on demande des modifications et très rarement, on accepte l'article tel qu'il est. Ça se fait quasiment plus. Il y a toujours des petites choses à améliorer. Donc voilà, c'est un processus qui peut impliquer jusqu'à une petite dizaine de personnes. Et donc, ça prend à peu près 3 mois, en général, la première évaluation. Et il peut y avoir quelque chose de négatif. Par exemple, je te le donne très clairement. On peut avoir une étude où l'éditeur en chef n'a pas vu un biais énorme.
Okay.
Moi, en tant qu'éditeur, j'ai pas vu un biais énorme parce que c'est un biais par exemple, les auteurs ont oublié des études qui montrent la même chose, etc. Et moi, je le sais pas. Ouais. Et ça va venir des reviewers qui vont me dire, attention, voilà le problème. Et nous, on juge un peu les arguments. Et in fine, quand tout le monde est d'accord et que les auteurs ont fait les corrections et la décision est prise, l'article devient accepté officiellement.
Ok, top. Et est-ce qu'il faut payer pour publier?
Alors, parfois, oui. Rien n'est jamais gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc, il y a plein de systèmes. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'uniformité dans la littérature scientifique. Il y a plein de systèmes. Alors, ça va de tout gratuit. La soumission est gratuite, la publication est gratuite, c'est de plus en plus rare. Tu le sais peut-être, mais les compagnies d'édition sont les compagnies qui font le plus de marge au monde, hein, parce que en fait maintenant tout est dématérialisé et le paiement d'articles va jusqu'à 2 à 3 000 euros pour publier. Donc au milieu de ça, il y a des revues qui font payer le nombre de pages au-delà d'un certain nombre de pages. Il y a des revues qui font publier par article qui font payer autour de 5 à 800 euros. Et il y a des revues qu'on appelle open access qui, comme leur nom l'indique, rendent accessible intégralement toutes les publications. Et là, ceux qui payent, entre guillemets, ce sont les auteurs ou leur institution. Donc moi, dans mon labo, quand on fait le choix d'un open access, ça coûte entre 1500 et 3000 euros pour publier un article. C'est un grand débat actuel, hein, c'est où va l'argent? Parce que c'est les institutions qui payent ça, c'est pas moi qui paye ça avec mon salaire, c'est mon université. Et in fine, les compagnies qui éditent les articles ont parfois des abonnements ou tirent des fruits de publicité et touche de l'argent là-dessus.
Et est-ce que ça n'existe pas, je fais un parallèle, mais est-ce que ça n'existe pas un circuit court de la publication, un circuit court et local de la publication scientifique, tu vois, de... Alors pareil, t'aurais peut-être moins de revues, mais...
Par définition, non, parce que le but de la connaissance, c'est d'être universel. Donc, ouais. On peut pas être en circuit local. Je peux pas publier pour les gens de Saint-Étienne, quoi.
Ouais, ouais.
Donc non, ça existe pas. Par contre, il y a un modèle de circuit court qui s'appelle le blog ou les publications en ligne en open access, ce qu'on appelle les préprints. Mais ce sont des articles qui peuvent être de très très bonne qualité, mais qui n'ont pas le label d'une publication scientifique entre guillemets officielle, qui sont pas répertoriés et entre guillemets qui ne comptent pas comme tel. Donc il y a toujours ce filtre, cette labellisation des revues scientifiques.
Top. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui écoutent et qui veulent se lancer sur la dissémination? Tu vois, on parle souvent de problèmes de légitimité et tout ça. Et donc après avoir publié, comment on dissémine et voilà comment on le fait bien entre guillemets.
Alors c'est bien que tu aies dit après publier parce que pour faire de la dissémination, il faut avoir quelque chose à dire ou à partager. Néanmoins, on peut tout à fait se lancer dans la dissémination, dans la vulgarisation du travail des autres. C'est-à-dire, on peut tout à fait partager des études scientifiques, les résumer pour les autres. Et donc mon premier conseil, c'est déjà d'observer ce qui se fait, c'est-à-dire d'observer qui le fait, comment c'est fait, pour essayer de se positionner, pour essayer de pas être redondant. Ensuite, il faut trouver son auditoire, c'est-à-dire il faut se dire à qui je veux parler. Il faut quand même cibler les choses. Et puis après, il faut se lancer. Pour moi, le meilleur conseil, c'est après cette phase un peu d'observation et de réflexion stratégique, pour être clair. En fait, il faut être clair dans l'activité qu'on met en place et il faut se lancer. Voilà, donc. Que ça prenne la forme d'un blog, d'un compte sur Twitter ou sur Instagram ou autre. Il faut se lancer et il faut essayer d'avoir une période d'observation de soi-même. Voilà, donc, mais il faut commencer par déjà faire le tour parce que toutes les bonnes idées sont partagées et il ne faut pas se lancer comme ça de but en blanc en disant j'envoie. Non, il y a d'autres personnes qui l'ont fait, qui le font. Regarde comment ça se passe et trouve ton originalité et ton auditoire. Ça, c'est fondamental. Il faut essayer de cibler à qui je veux parler.
Et où et comment on apprend à communiquer, tu vois, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend, en tout cas dans nos branches respectives. Et donc, est-ce qu'il y a, je sais pas, des...
C'est très important cette question. C'est très important. Et bon, là, je te donne mon expérience, hein, mais je pense que les cours, les formations, les livres, communiquer pour les nuls, c'est bien. À un moment donné, il y a des choses de base à savoir. Mais moi, je pense qu'il faut se donner du temps et il faut observer. Il faut suivre des gens qui le font, regarder ce qui nous semble pertinent ou pas. Il faut observer avec du bon sens. Il faut s'auto-former là-dessus pour voir ce qui se passe, voir ce qui marche, comment ça marche, etc., etc. C'est bien de prendre des cours. On peut faire une formation courte en marketing digital ou peu importe. Mais il faut jamais oublier que très souvent, je suis enseignant, hein, mais ceux qui enseignent, c'est pas forcément les experts dans la pratique de ce qu'ils enseignent. Tu vois ce que je veux dire? La pratique de la communication, c'est avant tout par les gens qui le font. Donc voilà, il faut un peu lire, voir les choses. Et puis après, il faut aussi avoir de la lucidité. Essayer de demander autour de soi ce que les gens pensent de tel ou tel article, ce que les gens pensent de tel produit. Et puis essayer d'avancer comme ça. Je crois beaucoup plus à l'auto-formation dans ce genre de choses-là. En fait, quand tu suis des grandes règles qui te sont enseignées, tu risques, à mon avis, de faire quelque chose de très classique et qui manquera un peu d'originalité, qui manquera en fait le lien avec ta personnalité. Et ça, c'est important. Et je ne dis pas qu'il faut totalement s'auto-former et faire fi de toutes les règles de base de la communication. Je dis juste qu'il ne faut pas oublier cet aspect. Faut pas être extrême, mais il ne faut pas oublier cet aspect, cette sensibilité personnelle. Parfois, il y a des trucs qui sont, entre guillemets, interdits par les règles de base de la communication, mais qui sont tellement bien faits par les personnes qui le font que c'est ça la clé de leur réussite en termes de com. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas hésiter à essayer de se driver un peu tout seul et à être attentif au feedback des autres.
Top. Est-ce que, alors, c'est une petite question, mais qui peut entraîner une grande réponse. On en parlait en off tout à l'heure. Après la dissémination de ton papier, comment par exemple, alors j'inverse les rôles. Moi qui lis un article, comment est-ce que je l'applique après, en pratique? Tu vois, comment j'en extrais vraiment ce qui va bouleverser ma pratique?
Oui, alors en fait, c'est la base de l'EBP, en fait. C'est la base de dire, je veux avoir une pratique basée sur l'évidence. Alors, il y a un leurre un peu dans l'EBP, c'est qu'il faut faire très attention. Je pense qu'il ne faut pas être 100% EBP. Parce que si toute ta pratique est basée sur l'évidence scientifique, ben, y a des choses que tu ne feras pas, parce qu'on manque de preuves scientifiques pour ça. Donc, il faut faire attention. Mais si tu décides sur un point d'appliquer la recherche, je pense qu'il y a, la première chose, c'est d'essayer de vérifier que la recherche à laquelle tu as accès correspond à ton contexte, c'est-à-dire que tu vas bien pouvoir l'appliquer dans ton contexte à toi. Et je pense que la deuxième chose à faire, c'est d'essayer d'expérimenter. Alors, je sais que parfois, tu gères des patients et que ben, expérimenter, c'est prendre un risque. Mais tant que tu n'as pas passé le cap de ton evidence, c'est-à-dire de ta preuve à toi, il va te manquer quelque chose. Et ça, c'est pareil, c'est très important parce que si tu t'aperçois que appliquer une recherche avec tes patients fonctionne pas, tu es en droit de te dire, ben voilà, ces résultats étaient dépendants de ce contexte qui n'est pas le mien. C'est pour ça que les méta-analyses sont très intéressantes, c'est parce qu'elles permettent de mélanger un peu les contextes. Et donc, le but, c'est d'expérimenter. C'est d'avoir une pratique basée sur l'expérience, plus que, en plus de l'évidence.
Et si ça marche pas, tu vois, si je lis un article que j'ai la population, on va dire, pour appliquer ces preuves là et que ça marche pas, donc où je lis d'autres articles et après je fais mon mix entre moi, ce que je pense et ce que j'ai vu sur mes patients ou sur mes athlètes et ce que j'ai pu lire et ce que je lis de nouveau et etc. quoi.
C'est ça. Et donc tu vas former, encore une fois, une pratique basée sur l'expérience. C'est-à-dire que tu vas essayer de mélanger évidence et expérience, de voir ce que les études, entre guillemets, prédisent pour toi et ce que tu observes ou pas. Et tu pourras toujours te poser la question de la méthodologie, parce qu'il y a une chose fondamentale en science, c'est la réplication. C'est-à-dire que pour retrouver la même chose qu'une étude, il faut vraiment faire la même chose. Il y a eu des études récemment qui ont essayé de répliquer des méthodes avec lesquels nous, on avait trouvé des résultats qui n'ont pas trouvé de résultats, sauf que quand tu regardes leur méthodologie, ils ont fait des choses totalement différentes. Donc, c'est un peu, voilà. Donc, il faut absolument être rigoureux pour se mettre, si possible, dans le même contexte. Et puis après, ben, entre ce qui confirme les études ou ce qui n'est pas identique, ben, c'est à toi de former un peu ton mode, ta preuve pratique. C'est très souvent que dans des discussions, j'ai des kinés qui me disent, ben, ça, j'ai vu avec certains patients que ça marchait très bien, conformément à la littérature. Ça, en revanche, pas du tout. Et l'idée, c'est que, ben, tu avances après avec cette expérience-là.
Carrément. Et la pyramide de l'évidence scientifique, on en avait parlé aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de négatif là-dedans?
Alors, pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez vous taper sur Internet pyramide de l'évidence scientifique et vous verrez ce schéma qui résume un peu le niveau, alors on va dire le niveau de qualité de preuve scientifique des différentes publications. Le bas de la pyramide, habituellement, c'est l'opinion des personnes, l'opinion des experts, c'est-à-dire quelque chose qui est une opinion, qui est pas basée sur la méthode scientifique. Donc ça, on dit que c'est un niveau bas de preuve scientifique parce que c'est très biaisé, c'est pas confirmé et tout. Après, il y a des études de cas, et on sait que les études de cas, ben, c'est un début de preuve scientifique, mais c'est pas, hein. Après, il y a les études expérimentales, il y a les essais randomisés contrôlés, et puis, le sommet de cette pyramide, ce qu'on estime comme étant le plus haut niveau de preuve scientifique, c'est les méta-analyses avec, analyse systématique. C'est-à-dire, en fait, on fait des statistiques sur les résultats de plusieurs essais randomisés contrôlés pour dire, voilà, je te prends un exemple tout simple, l'effet des automassages, c'est ça. Donc, cette pyramide, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle permet de dire aux gens, suivant d'où vient l'info, il y a des niveaux de qualité de preuve qui sont variables, d'accord ? Tout ce qui est publié n'est pas parfait, et il y a des choses publiées qui ont un niveau de preuve assez bas, finalement. Et il y a des choses publiées qui ont un niveau de preuve très élevé. Ça, c'est le, pour moi, le point positif. Ça permet un peu de dire tout ne se vaut pas. Le point négatif, c'est que le problème, c'est que si tu ne jures que par cette revue scientifique, tu n'appliques que les résultats des méta-analyses, que le top de la preuve scientifique, que le sommet de la pyramide. Et ça, pour moi, c'est un problème pour deux raisons. La première, c'est que toutes les thématiques de notre champ n'ont pas reçu de méta-analyse ou de revue systématique basée sur des dizaines d'articles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? S'il n'y a pas de méta-analyse sur un truc, on bouge pas. Ben non, il faut quand même un peu essayer d'avancer. Et la deuxième chose, c'est que, ben, comme toute publication scientifique, même une méta-analyse, ça peut contenir des erreurs d'analyse. Ça peut avoir été publié avec un nombre d'études faible, avec une puissance statistique faible. Parfois, dans certains journaux, parce que des revues systématiques permettent de booster l'impact facteur des journaux et d'être très cités, ben, on pousse un peu à la publication de méta-analyses qui sont incomplètes, ou etc. etc. Et donc, tout n'est pas parfait dans cette pyramide de la revue scientifique. Et il y a un dernier point fondamental, c'est que il va y avoir des informations très intéressantes dans certaines études expérimentales qui correspondent exactement à votre problématique. Et cette information-là, pour vous, elle est de bien meilleur niveau qu'une revue systématique qui intègre plein d'autres contextes, plein d'autres populations, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est très bien la pyramide de la preuve scientifique, c'est très mal d'en être totalement dépendant et de ne jurer que par ça. C'est un peu le truc qui m'énerve parfois sur les réseaux sociaux, c'est que quand un praticien, un entraîneur, un kiné, un médecin a une expérience de 20 ans sur un thème et qu'il la partage et que il le fait pas sous forme de méta-analyse, tu trouves toujours des mecs pour lui dire oui, mais où sont les revues systématiques sur ce point pour prouver ce que vous dites? C'est un peu pénible de lire ça parce que ça veut dire que ces gens-là ne jurent que par cette structuration académique. Et il y a de la preuve scientifique et il y a de la preuve expérimentale ailleurs.
Et JB, du coup, question bonus. Je t'entendais sur l'épisode avec Rob Pacey, un des épisodes auxquels tu as participé, où vous parliez justement de tout ça. Qu'est-ce que tu lis en premier sur un article et qui va te faire lire soit l'article entier, soit te dire ben non, au final c'est pas du tout ce qui m'intéresse et je change d'article?
Alors hormis le titre et le résumé, ouais. dans le corps de l'article, normalement je vais pas trop lire l'introduction. Parce que si je suis intéressé par les résultats, je sais déjà que l'étude, elle était intéressante et qu'elle est justifiée. Et donc, si je suis vraiment dans le topic. Moi, souvent, ce que je vais lire, c'est le début de la discussion. Parce que si un article est bien structuré, dans le début de la discussion, les gens résument un peu quels étaient leurs objectifs et qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Et ça, pour moi, je trouve ça intéressant parce que si, encore une fois, si les auteurs font bien leur job, ils résument les choses de façon claire et fidèle au résultat. Parfois, c'est pas le cas. Mais globalement, voilà, là, tu as l'info un peu clé. Bien sûr, les conclusions, mais le début de la discussion, il est un peu plus ancré sur les résultats. Et puis après, je vérifierai quand même la méthode. Donc voilà, pour moi, l'approche, c'est quand même début de la discussion. Ça va me résumer les résultats. Bien sûr, après, si j'ai envie, j'irai piocher les trucs. Mais... Et puis, la méthode pour essayer de me rendre compte si ce qui a été trouvé, ça vient d'une méthode fiable. Je pense qu'il faut, sans être sceptique par défaut, il faut aussi se bien garder en tête que parfois, il y a des études qui sont publiées et qui sont d'un niveau globalement méthodologique faible. Donc, c'est important de pas se fier aveuglément à la méthode parce que c'est la meilleure façon de l'arnaque intellectuelle de base, c'est de dire une étude a dit que ou des études ont dit que, et puis derrière tu sors ce que tu veux. Les gens, en gros, s'il y a le mot étude dans ta phrase, ils vont le croire à 100%. Ça marche pas comme ça. Il faut vérifier quand même la méthode. Mais je pense que voilà, la discussion est parfois plus intéressante parce qu'elle remet les choses en perspective par rapport aux résultats bruts.
Top, top. Merci. JB, tu as le mot de la fin.
Bah écoute, j'espère que beaucoup de tes auditeurs auront un peu le goût d'essayer de plus s'intéresser aux publications scientifiques. C'est quelque chose à entraîner. Ça peut prendre une année à bien structurer ton radar, ton filtre, et puis après essayer d'éventuellement disséminer si tu en as envie. Mais si tu veux déjà appliquer la recherche, je pense que ça peut prendre un an à mettre en place les bonnes routines pour ce flux d'informations et essayer d'avancer comme ça. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé, ce sera le mot de la fin, c'est que c'est un jeu qui se passe en anglais, et qui se passe sur une plateforme internationale, parce que la connaissance est mondiale et universelle. Donc, il faut se préparer à ça. L'outil de base, c'est l'anglais. Alors, il y a des gens qui font un travail très bien et très important de traduction en anglais de la recherche. Mais pour moi, ce travail, il est limitant parce que ils sont obligés de sélectionner les choses. Donc, il y a un biais personnel là-dedans. Et l'information brute, celle qui est disponible pour tout le monde, on doit essayer de s'entraîner à y accéder. Ou alors, on est dépendant du filtre des gens qui vont nous repasser l'information dans leur sélection et dans ce qu'ils sélectionnent à l'intérieur des études qu'ils vont choisir. Et ça, c'est problématique.
Top, top, super. Thank you very much, JB.
De rien.
À la prochaine, JB.
Bye, ciao.
Salut.
Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.